Le signe du radiodon, c'est le signe de l'écoute. Tu ne m'écoutes pas, tu comprends vraiment rien à rien. C'est le genre de cri souvent lancé par l'un ou l'autre dans le couple. Alors si vous ne voulez pas laisser passer cette deuxième journée de radiodon sans avoir compris que l'équilibre du couple passe par l'écoute, écoutez Radio Présence et plus précisément, écoutez ce matin notre invitée, conseillère conjugale et familiale, sexologue et formatrice, Marie Binet. Bonjour Marie.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Vous devez recevoir dans votre cabinet, Marie Binet, des hommes et des femmes qui ne comprennent pas que leur conjoint leur reproche ce manque d'écoute. Ils ont pourtant l'impression de bien faire. Comment les questionnez-vous sur cette écoute ?
Alors souvent, cette difficulté d'écoute, elle se voit dans le cabinet. Chacun s'exprime et en fait réagit. La difficulté la plus grande quand on écoute, c'est de ne pas réagir à ce que dit l'autre. On peut très vite être pris par un sentiment d'injustice, de révolte, de tristesse, d'incompréhension, et on va dire non mais, ou je ne suis pas d'accord, ou c'est pas comme ça que ça s'est passé, et du coup en fait là on n'est plus dans l'écoute. L'écoute, elle nécessite une première disposition qui est: je suis là, ok, mais on peut être là avec un livre, avec un portable, en train de faire la cuisine. On a du mal à écouter dans ces cas-là. On est là, c'est important de pouvoir dire « je suis là avec toi, pour toi ». Et là, du coup, on se met en réelle disponibilité. C'est comme si on ouvrait la fenêtre de notre cœur, la fenêtre de nos pensées, pour accepter de laisser rentrer l'autre, s'approcher de nous, et accepter que nous-mêmes, nous sortions un peu de chez nous pour aller chez lui. Et ce mouvement-là, on ne peut pas le faire tout le temps, on ne peut pas le faire tous les jours, et il faut quelquefois même prendre rendez-vous. Mais en tout cas, ça demande vraiment cette conscience. En conscience, je suis là avec toi et pour toi. Et le plus difficile quand on est en couple, c'est d'avoir une écoute mutuelle, c'est-à-dire je peux être écoutée et je peux t'écouter. Et ça, souvent, c'est pour ça que je dis qu'il faut des temps un peu réservés, des espaces et des temps un peu réservés pour ça.
Est-ce que communiquer, raconter sa journée, donner son avis, c'est suffisant pour nourrir la vie conjugale ?
Alors, c'est déjà le béaba, je dirais. Si tous les jours, les conjoints prennent le temps, en fin de journée, de se raconter, de dire voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui, ce que j'ai entendu à la radio, j'ai eu telle personne au téléphone, eh bien, on met en commun la vie, le simple de la vie. Mais c'est ce simple de la vie qui nourrit le quotidien et qui nourrit la relation, qui fait que vraiment, on peut se sentir ensemble. Et puis, ça peut se passer dès le matin. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée ? Qu'est-ce que tu as prévu ? À quoi tu as pensé ? Et puis, quand on prépare un week-end, c'est pareil, de se dire, ce week-end, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et on nourrit. Et après, on y inclut, bien sûr, les enfants, puisqu'il y a une vie de famille qui est derrière.
D'accord. Quelles sont les conditions de base, Marie Binet, pour offrir une bonne écoute à son conjoint ? Vous avez dit, je suis là avec toi, pour toi, mais bon, il faut quand même avoir un certain nombre, mettre en place un certain nombre de conditions.
Alors, justement, celle de pouvoir être dans un espace et un temps dédié pour ça, où il n'y aura pas d'interférence. On parle beaucoup de tout ce qui est écran en ce moment, mais ça peut être même les enfants qui débarquent, ça peut être il fait trop froid, il fait trop chaud, est-ce qu'on a besoin d'un peu de musique, est-ce qu'on a besoin de faire une prière avant. Voilà, il y a des conditions qui vont être favorisantes. Et puis, j'aime bien rappeler au couple que nous avons 5 sens et que l'écoute, elle passe déjà par la vue. Je te regarde et je suis regardée. Je vais écouter avec mon oreille, mais je peux aussi te toucher, te prendre la main, me rapprocher de toi. Et puis, on peut partager un repas. Donc là, le goût va être, l'odorat et le goût vont être aussi mis en place. Et en fait, ces 5 sens ont la faculté, c'est vraiment à ce à quoi ils servent en premier, de nous faire percevoir le monde et de nous rapprocher de notre environnement, et donc de nous rapprocher de l'autre. Et souvent, on oublie d'utiliser nos 5 sens qui vraiment créent une complicité. Exactement, parce qu'en fait, on ne peut écouter que si on se connecte à l'autre. On ne peut se sentir écouté que si l'autre est connecté à nous. Alors, on utilise ce terme beaucoup pour les ordinateurs, etc. Oui. Mais en fait, nous avons besoin, nous, humainement, d'une connexion de nos cœurs, de nos pensées et de nos corps. Et on sait que ça libère des hormones dans notre cerveau. C'est de la neurochimie qui permet justement de renforcer notre attachement. Et donc, c'est formidable, en fait. On est vraiment très bien fait. On ne peut que louer le Seigneur de nous avoir créés ainsi. Nous avons tout en nous pour créer l'attachement, renforcer l'attachement et rester du coup l'un avec l'autre et avoir le désir surtout d'être avec l'autre.
Oui, c'est ça. Oui. C'est aussi un désir, une volonté, une décision. Est-ce que, Marie Binet, l'empathie tient une place importante dans l'écoute conjugale. Comment la manifester précisément ?
Alors, l'empathie, la bienveillance, ce sont des termes qui sont très, très utilisés ces dernières années et qui ont été un petit peu pervertis, entre guillemets, parce que être empathique, être bienveillant ne veut pas dire ne rien dire et tout avaler. C'est je t'écoute parce que je suis là pour toi, avec toi, et j'essaye de te rejoindre dans ce que tu vis, que tu sois blessé ou que tu aies quelque chose de merveilleux à me partager, je te rejoins. Par contre, j'ai quand même à te dire ce que j'en pense et peut-être que nous avons à rediscuter de ce qui s'est passé, de la manière dont ça s'est passé pour soulager l'un et l'autre. Parce que on a tendance à utiliser l'empathie et la bienveillance comme « bon bah c'est normal, t'as le droit de penser ce que tu veux, t'as le droit de ressentir ce que tu veux et puis tant pis
et
si ça
me
fait
là.
À moi aussi ». Voilà. Et non, il faut aller un petit peu plus loin parce que sinon en fait… on ne résout pas la réalité de ce qui s'est passé dans la relation et l'intérêt, c'est de purifier la relation. Donc, je peux t'écouter et je peux aussi t'en dire quelque chose. Et je peux, bien sûr, surtout quand il y a une blessure, c'est d'aller jusqu'au bout, de pouvoir demander pardon, pardonner pour que, comme je disais tout à l'heure, on purifie la relation. Oui. Donc, l'empathie et la bienveillance ont comme but de permettre une fluidité de la parole. Je peux t'accueillir. En fait, c'est une façon d'accueillir l'autre. Et on ne peut écouter que si on est prêt à accueillir l'autre et tout l'autre, même ce qui nous déplaît en lui. C'est ça la difficulté de l'écoute, en fait.
Et oui, c'est ça. C'est aussi l'empathie, c'est aussi une façon de se décentrer.
Oui, parce que ce qui nous déplaît chez l'autre va nous activer chez nous. Donc quand on écoute, si on reste trop centré sur nous, on va être tellement activé qu'on ne va plus pouvoir écouter, on va réagir. Et l'empathie nous permet de nous décentrer de nous et d'aller vraiment chez l'autre pour percevoir ce qui est important pour lui.
C'est vrai que l'empathie, elle n'exige pas forcément des longues réflexions ou des grandes décisions, mais c'est finalement l'expression d'une compréhension mutuelle, non ? Compréhension émotionnelle peut-être plutôt.
Voilà, tout à fait, parce qu'on ne peut pas tout comprendre chez l'autre, puisque c'est sa vie, son histoire. Par contre, oui, le rejoindre et dire c'est ta réalité, c'est OK pour moi. C'est ta réalité, je l'accepte comme telle, même si je ne la comprends pas complètement, même si j'ai le droit de ne pas être d'accord. En tout cas, c'est comme ça pour toi et je le respecte. Donc, ça invite au respect et ça diminue les conflits et ça permet surtout d'aller un petit peu plus en profondeur dans la relation. Donc, du coup, la relation, elle s'enrichit, elle s'approfondit et elle porte davantage de fruits. Alors, c'est pas facile. Tous les couples butent à un moment donné. C'est un exercice qui t'a répété régulièrement. Si on arrive à le faire une fois par semaine, c'est génial. Voilà. C'est vraiment des temps forts qui permettent au couple de se consolider et de créer une complicité qui crée surtout une chose essentielle pour l'amour, c'est la confiance.
Et c'est ce que j'aime dire, la confiance.
Si je peux te parler, si tu peux me parler, eh bien, on se fait confiance. Et là, tout est ouvert.
Dans l'écoute, on se pose aussi parfois la question du silence. Est-ce que écouter, c'est aussi se taire ?
Oui, ça peut être le premier temps de l'écoute, pour laisser l'autre, laisser à l'autre l'espace dont il a besoin et le temps dont il a besoin pour dire sa pensée, dire son émotion et la dérouler. Puis vous savez, on ne s'exprime pas tous de la même manière. Il y en a qui sont très rapides, d'autres très lents. Donc il faut du temps. Et puis ça permet à soi aussi d'intégrer ce qu'on entend tranquillement et que ça devienne une écoute, c'est-à-dire qu'on entend. Vous savez, ça peut rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Donc, écouter, c'est aller dire ce que j'entends, je le garde et j'essaye d'en faire quelque chose que je vais resservir à l'autre. Je ne garde pas tout pour moi. Et du coup, on met en commun. C'est ça, mettre en commun. C'est je t'écoute, je te restitue ce que tu me dis. Et du coup, ça devient quelque chose de commun. Et j'en rajoute après, quand c'est le moment, quelque chose qui vient de moi.
Oui, c'est ça. Et donc, on peut se permettre de poser des questions ouvertes d'éviter peut-être des injonctions un peu rapides. C'est oui, c'est non. Tu me fais confiance ou pas voilà, des formules.
Dans ces cas-là, oui, dans ces cas-là, on n'est plus dans l'écoute. On agit ou on réagit parce qu'on se sent agacé, où on se sent touché quelque part. Alors là, ce qui est intéressant, quand on arrive à gagner une bonne complicité, c'est de voir dire où ce que tu es en train de me dire, je suis touchée, là, je me sens pas très à l'aise, je suis pas bien avec ce que tu me dis. Peut-être qu'on pourrait en reparler un peu plus tard, le temps
oui,
que j'y réfléchisse.
Le temps.
Exactement. Donc, les silences dont vous parlez, ils peuvent être au moment, et puis ça peut être un décalage pour terminer la conversation. On va laisser un silence pendant un temps pour réfléchir, et puis revenir sur le sujet qui a été un petit peu difficile à discuter à ce moment-là.
Oui, c'est vrai que c'est important de se donner cette liberté, en fait, hein, de garder le silence et de remettre à plus tard peut-être une conversation. Vous avez parlé, Marie Binet, des cinq sens. Quelle est la place de la communication non-verbale dans l'écoute en couple?
Alors, la communication non-verbale, d'une manière générale, c'est 80% de notre communication.
Ah oui.
C'est pour ça que les yeux sont très importants. Si je ne regarde pas l'autre, je loupe 80% de ce qu'il a besoin de me dire. Et parce que vous savez qu'en plus, on peut avoir une expression qui contredit la parole.
Oui.
Et c'est l'expression qui dit la vérité. Donc, c'est important de vraiment regarder l'autre, être attentif à lui, à elle, et de se dire, voilà, qu'est-ce que l'autre a envie de me dire? Si je sens le corps qui est un peu en retrait, si je sens au contraire que l'autre a besoin d'un câlin, je peux ouvrir mes bras. Mais si je ne regarde pas son corps, je n'ouvrirai jamais mes bras, parce que le ton de sa voix sera peut-être autre. Donc, c'est pour ça que la première disposition, c'est la vue, parce que la vue accueille l'autre. Quand vous invitez des gens chez vous, quand vous ouvrez la porte, vous les regardez et ils se sentent accueillis. Bon, c'est pareil, si mon conjoint ou ma conjointe n'est pas regardé, il ne se sentira pas existé et ne pourra pas parler parce qu'il se dira « je ne serai jamais écouté, je ne suis même pas regardé ».
Oui, c'est ça. Alors, on comprend bien qu'il y a, enfin, on constate en tout cas dans nos vies et puis dans tous les témoignages qu'on entend des couples, ce qui gêne l'écoute aussi, c'est le manque de temps, c'est la fatigue, le manque de disponibilité. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, Marie Binet, pour passer au-delà justement de ces freins à l'écoute?
Alors, j'en ai déjà parlé dans une de mes chroniques, mais c'est peut-être de remettre le couple en haut de la to-do list. Parce qu'il est évident que quand on s'est d'abord occupé des enfants, puis de faire la machine, puis de débarrasser le dîner, puis etc., il arrive 10 heures du soir, on n'a plus du tout l'énergie de parler. C'est une évidence. Donc, le couple en haut de la to-do list. Quand je rentre du travail, est-ce que je peux, soit avant, soit après avoir pris un temps pour moi, est-ce que je peux prendre un temps avec mon conjoint pour faire ces 10 minutes dont on parlait, pour échanger sur la journée? Est-ce qu'on peut caler un rendez-vous une fois par semaine? On sait que tous les mardis, c'est notre soir, on ne mange pas avec les enfants, on se retrouve que tous les deux et c'est notre soirée. Et là, on va parler peut-être un peu plus en profondeur. Pour certains, ça peut être le dimanche soir, justement, avant d'entamer la semaine. Mais en tout cas, se réserver du temps, partir le plus souvent possible, au moins une journée en couple. Si c'est une fois par mois, c'est top. Quelquefois, c'est difficile, mais le plus souvent possible, des temps privilégiés, le couple en premier. Parce que si le couple est en bonne santé, la famille est en bonne santé. Et le couple est plus fort pour affronter les difficultés, les épreuves. Alors, ça demande aussi de s'écouter soi-même. Parce que c'est bien d'écouter l'autre, mais si je ne m'écoute jamais, je ne pourrai jamais recevoir l'autre. Je serai tellement plein de moi-même que j'aurai pas de l'espace pour l'autre.
Donc on entend finalement que voilà, l'équilibre à trouver et à retrouver, peut-être à mettre en œuvre dès aujourd'hui, c'est s'écouter l'autre, trouver des moyens de se ressourcer, la prière, une marche, etc. Et puis de décider d'avoir un moment par semaine au moins avec son conjoint pour une bonne écoute et une bonne entente.
Tout à fait, et de se prendre un moment par semaine pour soi,
voilà.
Pour justement s'écouter et voir dans quel état on est, quelles sont nos aspirations, quelles sont nos difficultés, de manière à mieux en parler à l'autre.
Merci beaucoup Marie Binet pour tous vos conseils ce matin. Je rappelle que vous êtes conseillère conjugale et familiale, sexologue et formatrice. Vous nous avez donné des clés pour s'écouter en couple.
Merci beaucoup à vous, bonne journée.